Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Agnès Michel, bonjour.
Bonjour.
Membre du comité éditorial de Terra Nova. Avec nous, Philippe Aguillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile et Jacob. Jean-Marc Daniel, bonjour, bienvenue.
Rebonjour.
Professeur à l'ESCP, vous publiez l'histoire de l'économie mondiale, des chasseurs-cueilleurs aux cyber-travailleurs, l'économie expliquée à tous chez Talendier, et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho, dont voici le numéro du mois de juin. À la une de ce numéro, si l'Europe devenait puissante. Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est bon signe. Ça veut dire que vous y croyez?
Oui, on y croit. Alors évidemment, sur le plan militaire, l'Europe est un peu en retard par rapport aux États-Unis ou même à la Chine, mais l'Europe a beaucoup d'atouts et l'Europe est attractive. Ce qu'on montre, c'est que il y a beaucoup de pays qui veulent adhérer à l'Europe. On voit l'Ukraine en ce moment, mais la Macédoine est en train de négocier pour adhérer à l'Europe. L'Albanie voudrait adhérer à l'Europe. La Géorgie veut adhérer à l'Europe. Il y a des manifestations en Géorgie pour que le gouvernement entrave des négociations. Et donc, je crois que l'Europe est attractive. Alors, j'espère qu'elle ne l'est pas uniquement pour le coffre-fort allemand. C'est-à-dire, on pourrait penser qu'il y a des gens qui se disent...
Pour fuir la Russie, le coffre-fort allemand...
plutôt dans l'OTAN.
La signature berlinoise, le parapluie de Francfort avec la BCE. Bon.
Et puis, on souligne aussi quand même le succès objectif de ce qu'est l'euro. Et c'est important parce que c'était pas gagné. Et puis, on a profité du fait que... Aujourd'hui, c'est d'actualité, puisque je vous rappelle qu'il y a 6 ans, le monde entier découvrait avec une forme de surprise, voire de consternation, que les Britanniques avaient voté pour le Brexit. C'était le 23 juin.
C'est déjà 6 ans.
Oui, c'était le 23 juin 2016 et à minuit, tout le monde était persuadé que le Brexit était rejeté et puis à 4h du matin, on s'est aperçu que le vote en faveur du Brexit avait gagné.
Je ne sais pas s'ils le referaient de la même manière, les Britanniques, aujourd'hui.
Bon. Je crois qu'on ne leur reposera plus la question.
Voilà. Donc, c'est Pour l'écho, le numéro du mois de mai. Je voulais rajouter quelque chose, mais je ne sais plus ce que je voulais rajouter. L'actualité sur la sobriété. Voilà. Là, on a des faits. On a des faits. Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, nous dit qu'il faut réduire de 10% notre consommation d'électricité d'ici à 2 ans, car on ne passe plus l'hiver si nous ne le faisons pas. Alors, en Allemagne, le ton est très différent, puisqu'effectivement, on va mettre les ménages à contribution, et d'ores et déjà, ils disent, pour l'instant, on passe pas l'hiver. Hein. Ils dépendent très largement, beaucoup plus que nous, du gaz russe. Et donc, les pistes envisagées seraient de décaler les horaires de travail, pour éviter, lisser la consommation tout au long de la journée, donc on évite le pic du matin, on évite le pic de la fin de journée. Relancer massivement le télétravail, l'expérience de Covid prouve que ça réduit d'environ 5% la consommation d'électricité, s'il est massivement pratiqué. Et puis aller jusque à imposer avec des dédommagements, des fermetures pour des usines vraiment très énergivores. Alors là, évidemment, on est sur un gain qui pourrait être de 15% en termes de consommation d'électricité. Elisabeth Borne s'est voulue rassurante en disant que les stocks de gaz étaient plus avancés que prévu et qu'on devrait être à 100% à l'automne. Et elle a annoncé le lancement d'un 5e terminal méthanier pour traiter du gaz naturel liquéfié, notamment en provenance du Qatar et des États-Unis. Il verra le jour seulement en septembre 2023, donc ça va prendre un peu de temps, mais il devrait couvrir 10% des besoins de la population française. Il sera opéré par Total Energy. C'est votre grand jour, Agnès Michel. C'est la sobriété, l'heure de la sobriété a sonné.
Alors, très honnêtement, l'avantage de cette situation, c'est qu'on sort de la situation de Cassandre qui avait raison, hein, mais c'était mal pris dans la mythologie grecque. Et là, effectivement, ce qu'on dit depuis des années quand on a une casquette écologiste,
ce qui est mon cas,
c'est que à un moment donné, il y a des limites planétaires qui sont accélérées par la situation géopolitique sur l'accès à l'énergie. On a vécu 150 ans, c'était la fête.
Corne d'abondance,
on avait énormément d'accès à de l'énergie. Et cette phase-là est en train de se refermer. On a deux façons de voir les choses. On peut le voir de façon extrêmement négative en disant « Mon Dieu, c'est la fin de tout du progrès », comme si le progrès, c'était de produire plus. C'est une appropriation de cette terminologie que je conteste.
Ça peut en être une. On peut dire que progrès, c'est produire plus.
Façon, mais
ça peut être autre chose, progrès.
C'est, voilà, progrès, chacun peut avoir sa propre définition. Donc, on peut voir les choses de façon très négative ou on peut voir les choses de façon très positive. C'est-à-dire que les changements induits par cette contrainte d'accès à l'énergie peuvent être aussi une façon de faire des choses positives. Par exemple, on sait très bien que la Hollande, là, qui va relancer le charbon, produit énormément de fruits et légumes, ce qui est assez aberrant si on regarde la géographie. Je ne dis pas que dans 10 ans, ils seront aussi ensoleillés que la Méditerranée.
Il y a des serres monumentales aux Pays-Bas.
Les serres, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse consommation énergétique.
Oui, oui. J'en ai parlé hier, Agnès. J'ai donné une anecdote hier.
C'est scandaleux. Je m'en veux terriblement. Bon. Néanmoins, ces serres consomment énormément d'énergie pour produire des fruits et légumes, dont, excusez-moi, en tant que méditerranéenne, je trouve le goût assez passable, assez justement négatif. Et puis, en termes d'un nutritionnel, etc., on peut contester aussi. Donc, l'aspect positif, c'est de se dire, finalement, en rationalité économique, ce ne sera pas très intéressant de surproduire dans ces serres et de faire voyager cette fameuse image de la tomate qui traverse toute l'Europe, donc un bon millier de kilomètres pour aller jusqu'en Espagne, où pourtant ils en produisent aussi. Donc, c'est ça qui peut être intéressant.
Généralement, c'est tomate... Enfin, on va faire un débat sur la tomate, mais elle est consommée justement là.
Bon. Non, mais c'était ce modèle-là qu'on avait développé à fond parce qu'on avait de l'énergie comme ça, mais à foison. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se dire, on va pouvoir faire autrement et ça aura un impact positif pour tous les gourmets qui aiment les tomates, qui ont du goût.
Philippe Aguillon, par rapport à ce que vient de dire Agnès Michel, l'heure de la sobriété, comment
ça ne se limite pas à la tomate, c'était un exemple, évidemment.
D'accord. Comment vous voyez l'histoire?
Moi, je pense que la façon de résoudre le problème de l'énergie et de réconcilier prospérité et environnement et lutte contre le réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle l'innovation. Et l'innovation, elle est dans tout. L'innovation pour trouver des sources d'énergie propres. L'innovation pour produire autrement. Mais si l'innovation aussi dans nos comportements. Je pense qu'effectivement, quand Draghi dit en Italie, on peut se chauffer à 19 degrés, pas à 21 degrés. Quand certains disent en France, on peut rouler à 110 maximum et pas à 130. Ça aussi, je veux dire, c'est de l'innovation dans nos comportements. À Paris, vous savez qu'on ne trie pas encore les ordures. C'est comme moi, je vais souvent à Stockholm.
On a poubelles vertes et poubelles jaunes.
C'est beaucoup moins qu'en Suède et dans d'autres pays.
C'est la collecte.
Donc voilà. Donc si vous voulez, je crois qu'on peut, et pour moi le mot innovation c'est ce qui est creux, parce que là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, je ne pense pas qu'il y ait les ressources soient finies, c'est-à-dire que je pense à partir du moment où on a l'idée de l'innovation, alors le champ des possibles augmente, mais c'est l'innovation aussi dans nos comportements. Et effectivement, et ben, si on peut se chauffer à 19 et rouler à 110, il faut absolument le rendre obligatoire ou le favoriser, parce que ça va contribuer à mais en même temps il faut trouver de nouvelles sources d'énergie en même temps, et là vous savez qu'il y a la fusion nucléaire, il y a ce qu'on appelle les solar kites pour essayer d'attraper, d'aller dans l'espace. Il y a des technologies fabuleuses pour essayer de contenir le réchauffement climatique et de trouver des sources d'énergie propres. Et je pense qu'il faut tout essayer, qu'il faut tout faire. Voilà.
Il y a un aspect de votre démonstration, Agnès, quand vous disiez, on est rattrapé par les limites.
On n'est pas obligé d'être malthusien. On est dans l'optique de l'innovation, alors ça veut dire quand même qu'il faut être beaucoup plus dans ses comportements, innover également. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut plus faire du gâchis comme on faisait avant. Mais en même temps, quand on est dans le monde de l'innovation, on n'est plus malthusien. Et je crois que quand on ignore l'innovation, on est condamné au malthusianisme.
Je crois que la prise de position d'Agnès Pannier-Runacher est beaucoup plus motivée par les mètres cubes de gaz russe qui n'arriveront plus que par la soudaine prise de conscience des limites.
Allemands, parce que nous avons, et là c'est un point de désaccord, heureusement qu'on a le nucléaire. Parce que vous vous rendez compte, si on avait pris la même décision que les Allemands, et certaines forces politiques en France poussaient pour qu'on fasse comme les Allemands. Mais vous vous rendez compte, si on avait fait comme les Allemands, ils sont obligés d'utiliser le charbon maintenant. Ouais. Et nous, heureusement, on est moins dépendants du gaz russe que les Allemands grâce au fait qu'on a gardé les centrales nucléaires.
Vous savez que dans la loi économique, excusez-moi, je fais vite. L'allocation des ressources. Le problème de parler tout le temps d'innovation et souvent technologique, c'est qu'on alloue les ressources à cette innovation. Et c'est le pourquoi il y a ce côté très militant pour pousser sur le fait d'investir dans d'autres innovations. Par exemple, investir dans la transition thermique des bâtiments, c'est effectivement moins glamour que d'aller dans l'espace.
Ah non, mais néanmoins, moi, ça a une efficacité. Ça, bien sûr.
Extraordinaire.
Ah non, mais moi je ne suis pas contre vous, je suis pour les bâtiments et les transports.
Totalement.
Non, mais c'était sur le nucléaire que j'imaginais vous entendre.
Non, mais sur le nucléaire,
on ne fait pas un débat.
Non, mais de toute façon, le nucléaire, c'est une solution à 15 ans, si c'est une solution. Et aujourd'hui, ça ne répond pas. On voit que le parc est très vieillissant. Il est d'ailleurs à l'arrêt et il y a une diminution forte de sa production. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça peut être une réaction immédiate côté nucléaire. Voilà. Mais après, qu'on m'explique, moi je suis ouverte à la discussion.
Je rappelle qu'effectivement, il y a aujourd'hui une particularité avec le parc nucléaire français, c'est qu'un peu plus de 10 réacteurs sont arrêtés durablement pour des raisons de corrosion, mais les autres arrêts...
De 560 à 400, les prévisions, je crois...
De térawattheure j'ai pas vu.
Les prévisions, c'est 400, je crois, pour les années à venir. Ça fait beaucoup moins, quand même.
Mais je rappelle que tous les autres réacteurs à l'arrêt, ce sont des arrêts classiques, habituels du printemps, et c'est pas tout d'un coup, le parc est cassé. Voilà. Il y a effectivement un sujet de corrosion sur des réacteurs, d'ailleurs relativement récents. Jean-Marc, par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière.
Oui, alors je vais essayer de faire un peu la synthèse de tout ce qui a été dit. Concernant.
Et Juan de me dire qu'ils ont totalement tort, tous les deux.
Hein. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je pense. Mais je vais le dire avec des formes. Concernant les.
Non, je pense que c'est une boutade.
Non. Concernant le fait de savoir si les ruptures à laquelle qu'on va devoir affronter, c'est une rupture qui est liée aux limites de la nature ou si c'est une décision politique, je pense que c'est plutôt politique. Oui. Et qu'on a connu ça déjà en 1956 avec la crise de Suez ou en 1973-74 avec le choc pétrolier. Ce que je trouve intéressant, c'est les réactions qu'on a vécues à cette époque-là, comment on a réagi, et on n'a pas l'air de vouloir s'en inspirer. Donc en 1956, il y a une formule que je mets souvent en avant, le président du Conseil, c'était Guy Mollet, un socialiste, un homme de gauche, même si les socialistes le renient, et il avait dit, je fais d'abord appel au civisme. Je demande aux gens, et au bout de 3 mois, il avait dit, j'ai fait appel au civisme, maintenant je vais faire appel au cynisme. Et donc, il a augmenté les prix de l'essence et mis en place des tickets de rationnement, parce que le civisme, ça marchait pas forcément. Ah. Donc, je crois qu'il faut aussi savoir utiliser le signal économique, qui est le signal prix, savoir effectivement faire appel au cynisme et au calcul d'intérêt, qui est celui des êtres humains. En 73-74, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, alors vous parliez des aménagements, on a fait l'heure d'été. L'objectif, c'était de faire en sorte de consommer moins d'électricité.
C'était pas traumatisant pour les gens.
Oui, on a fait des mesures qui étaient celles dont vient de parler Philippe, c'est-à-dire le fait qu'on devait chauffer les administrations à 18 degrés. Et donc, il y avait même des circulaires, moi je me souviens, j'étais jeune fonctionnaire, où il y avait des circulaires invitant les fonctionnaires à venir avec un pull pendant l'hiver, de façon à pouvoir affronter les 18 degrés en question. Et donc, il y avait des mesures...
Ce n'est pas d'un radicalisme dingue.
Non, c'est on a construit des centrales nucléaires en même temps.
Et il y a eu la sobriété. Mais alors, il y avait des choses, et donc pour conclure là-dessus, puisqu'on est...
Presque fait la moitié de l'émission.
Il y avait, par exemple, on avait limité la saison de Formule 1 en automobile.
Ah, ça, je ne me souviens pas.
Et donc...
On avait limité.
Oui, on avait annulé un
certain nombre de Grand Prix. Bravo, Guy Mollet, m'écrit un auditeur.
On avait supprimé un certain nombre de Grand Prix de Formule 1. On avait négocié avec la Fédération des Sports Automobiles. Et donc, il y a des choses comme ça. On a fait appel à la sobriété, mais il y a des endroits et des lieux où cette sobriété n'est même pas évoquée. Et donc, je crois que la sobriété, même si on fait appel au cynisme, elle ne sera légitime que si on a l'impression que tout le monde est touché par la sobriété. Quant à l'innovation, évidemment, je partage le point de vue de Philippe Aguillon, mais mes papiers que je fais sur l'énergie en général, je fais toujours allusion aux physiocrates. Et je raconte toujours. Donc, les physiocrates, c'est des économistes du XVIIIe siècle. Et je fais allusion à un courrier qu'avait échangé Mirabeau, le père du célèbre révolutionnaire, avec D'Alembert. D'Alembert, symbole de l'intelligence scientifique de l'époque. Et il lui dit, écoutez, quand on regarde bien, l'énergie, c'est du soleil. Le charbon, c'est le soleil d'hier. L'agriculture, c'est on attend le soleil de demain. Une forêt, c'est le soleil qui progressivement... Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le soleil d'aujourd'hui? Et D'Alembert lui dit, écoutez, on cherche. Mais je peux vous garantir qu'à la fin du siècle, on pourra utiliser cette ressource infinie qu'est le soleil. Et donc j'appelle ça la promesse de D'Alembert parce que nous sommes... Pas à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes au début du XXIe siècle et la promesse de D'Alembert n'est toujours pas réalisée. Alors je crois
qu'il y a eu d'autres énergies qui étaient plus faciles à exploiter.
Oui, mais je pense qu'un véritable enjeu, c'est effectivement faire de l'innovation, bien l'orienter, mais aussi en connaître les limites. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mieux utiliser le soleil d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que D'Alembert n'a pas eu raison? Et donc je crois qu'il faut être ferme dans l'innovation et savoir que de temps en temps, il faut passer par des périodes de transition.
Je vais être un peu basique, Jean-Marc Daniel. Quand vous dites utiliser le soleil d'aujourd'hui, c'est le soleil là le...
Oui, la quantité d'énergie que nous envoie le soleil voilà. est très large.
D'accord.
Et très large.
Parce qu'on pourrait. Je pourrais vous dire le soleil, c'est le nucléaire. Vous voyez, je pourrais vous dire que.
Non, il faut une vraie politique industrielle. C'est-à-dire que je crois beaucoup dans le signal prix. Crois qu'effectivement, et on sait que quand on augmente le prix du carbone, ça incite les entreprises non seulement à produire plus vert, mais à innover plus vert. Donc ça, j'y crois. Mais je crois aussi à une politique industrielle verte. Il faut créer une DARPA énergie, l'équivalent de la DARPA américaine, la Defense Advanced Research Project Agency, pour développer des grandes technologies. Et je crois beaucoup que c'est les deux. C'est à la fois la jambe prix du carbone et la jambe politique industrielle. Et il ne faut pas avoir peur de ce mot. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas faire de la politique industrielle. Il faut qu'on apprenne à gouverner la politique industrielle, à faire un mélange de top-down, de haut en bas et de bas en haut. C'est-à-dire, comme on a fait pour les vaccins, hein, l'ARN messager, il y avait l'argent qui venait du ministère de la Santé et de la Défense américain, mais ils ont suscité plein de projets concurrents des laboratoires. Et c'est ce mélange-là qui a fait qu'on a pu, en un an, transformer l'ARN messager en production de masse de vaccins. Il faut faire la même chose pour l'énergie verte. Je crois beaucoup que c'est aussi important que le prix du carbone.
Je disais, Philippe, que c'était le jour de gloire d'Agnès Michel avec la sobriété qui venait de sonner, mais c'était hier, votre jour de gloire. Taxe carbone validée par le Parlement européen. Vous vous dites, ça y est, l'Europe a envoyé le vrai signal de la transition verte.
Mais moi, je pense que la taxe carbone, c'est très important, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'il faudra les deux. Je pense que ça va être des grandes technologies qui... C'est les deux.
D'accord.
Il faut les deux. La taxe carbone seule ne le fera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir de la taxe carbone en prenant le prétexte de la politique industrielle. Mais on a besoin des deux jambes.
Et vous, Agnès, juste... Alors, allez-y, Jean-Marc, allez-y.
Juste pour rebondir sur l'histoire du soleil...
Je voulais aller vous chercher sur le protectionnisme et la taxe
carbone.
Oui,
je vais revenir là-dessus. Mais sur le soleil et tout ça, une des questions qu'on se pose quand vous regardez...
Après les tomates, le soleil.
Toute la littérature qu'il y a en ce moment sur l'évolution, justement, de l'innovation, de la recherche et tout ça, c'est le charbon, Agnès l'a dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'est précipité vers le charbon. Et il y a un travail extraordinaire de Kenneth Pomerantz, qui est un grand historien de l'économie, qui explique pourquoi la force du Royaume-Uni, c'était pas l'esprit d'aventure, c'était le fait qu'à un moment donné, ils ont commencé à faire des recherches sur le charbon. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a une physique qui est apparue du charbon qu'on appelle la thermodynamique. La question que l'on se pose à l'heure actuelle, c'est pourquoi est-ce que la physique du soleil n'existe pas vraiment? Pourquoi est-ce qu'on fait de la physique du nucléaire et pas de la physique du soleil? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de gens capables de comprendre le soleil que vous vivez, que nous allons retrouver tout à l'heure quand on sort, ce soleil-là nous apporte une énergie qui est infinie, incommensurable, sans limite.
Mais la fusion nucléaire aussi, vous savez, quand on va réussir... Ah ben, la fusion nucléaire,
Mais
c'est endogène. Mais on n'essaie pas que la fusion nucléaire. Mais je pense qu'il faut miser sur plusieurs technologies, pas mettre les œufs dans un seul panier, mais miser sur plusieurs technologies et mettre le paquet. Et moi, je pense que ça, c'est aussi important que la taxe carbone. Je pense qu'il y a les deux qui vont être importants.
Agnès, une 40, la taxe carbone aux frontières validée par le Parlement européen. Vous avez
très important.
Très quand bien. Vous avez entendu ça, parce que moi je suis.
C'est très important la taxe carbone aux frontières. Je veux juste dire un mot là-dessus.
Pas à comprendre
comment. Je veux juste dire un mot là-dessus sur la taxe carbone aux frontières. C'est très différent de la taxe carbone tout court, parce que supposons qu'un certain nombre de pays européens deviennent vertueux, pleinement vertueux, décide vraiment d'aller sérieusement vers la transition énergétique et d'avoir des comportements vertueux, consommation, production, recherche, etc. À ce moment-là, il y a des pays qui peuvent devenir ce qu'on appelle des paradis polluants. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je comprends. Très
ils
bien.
vont accueillir des entreprises polluantes, et puis après, puisqu'il y a le libre commerce, ils vont dire vous venez produire chez nous, et après vous réexportez vos biens. Enfin, la taxe carbone aux frontières, c'est pour empêcher ou pour limiter ce genre de comportement. C'est pour empêcher le dumping environnemental. Donc, vous voyez, c'est très important la taxe carbone aux frontières. Bon. Mais il ne faut pas que ça devienne un prétexte au protectionnisme tout court. C'est là que je rejoins.
C'est là
qu'il faut le faire très habilement. Il faut le faire sur certains produits, et il faut le faire de manière très mesurée. Nixtern, par exemple, qui est mon grand ami, qui travaille beaucoup sur l'énergie et sur, le climat à London School of Economics, il pourra vous dire, là il faut le faire et là il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que c'est un outil qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions, parce que ça peut très vite dégénérer en protectionnisme, point barre. Et c'est ça qu'il faut, et c'est là toute la difficulté de la taxe carbone aux frontières.
Réaction d'Agnès Michel et Jean-Marc Daniel. Et faut-il y voir une forme de protectionnisme? Hier, Thibault Langsade, un chef d'entreprise, se félicitait de cette taxe carbone. Il utilisait sciemment et volontairement et avec réjouissance le terme de protectionnisme. À tout de suite.